France Info.
h 30 politique, comme chaque samedi à la même heure sur France Info, radio et télé, avec Jannick Halimi, bonjour.
Bonjour Mathéo.
Rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien aujourd'hui en France, et notre invité aujourd'hui c'est Hervé Morin, bonjour.
Bonjour.
Ancien ministre de la Défense, président de la région Normandie et de région de France. La SNCF a donc dévoilé hier soir les mesures commerciales pour les abonnés affectés par la grève, on écoute.
Il reste maintenant les 275 000 abonnés à notre service TER, que ce soit des abonnés annuels ou des abonnés mensuels. J'ai décidé qu'ils bénéficieront d'un abonnement à moitié prix pour le mois de juin.
50% de l'abonnement TER sera remboursé donc au mois de juin. 275 000 usagers sont concernés en France. Est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que vous pensez, comme votre collègue des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, que la SNCF devrait procéder à un remboursement total de ses abonnements TER ? Hervé Morin.
Je pense exactement la même chose que Xavier Bertrand et que l'ensemble des présidents de région. La SNCF se fiche de la tête des Français avec une telle proposition. 50% de la réduction du tarif, quand on sait que globalement il n'y a pas un train qui fonctionne ou pas, j'entendais Alain Rousset à l'instant sur vos ondes, on est sur des chiffrages qui sont les chiffrages de la SNCF, c'est-à-dire que globalement on mélange un peu tout pour essayer d'avoir des chiffres qui sont à peu près convenables et dire que 50% ça correspond à peu près à la réduction du trafic. En réalité, si vous prenez le trafic, il faut le segmenter. Il y a le départ le matin pour aller au boulot, il y a le retour le soir. C'est là où se situe l'essentiel des besoins. Après, il y a la question du week-end. Pour un abonné, en général, même s'il y a beaucoup de Français qui aujourd'hui travaillent le week-end, l'abonné, il utilise avant tout son abonnement sur la semaine. Donc, on ne peut pas avoir une vision de la sorte pour considérer qu'on se lave les mains à partir d'une réduction de l'abonnement de 50%.
Enfin, Hervé Morin, même les usagers des transports publics demandaient 60% et pas 100%. Il y a quand même eu des millions de gens qui ont été acheminés. Il y a eu des solutions alternatives avec les autobus, les autocars. Vous trouvez pas que vous alourdissez inutilement la charge la question de la SNCF?
La question de la SNCF est toujours la même. C'est que le jour où la SNCF aura des comptes transparents, on pourra enfin se parler. Le problème, c'est qu'on a des tarifs du kilomètre ferroviaire qui sont globalement beaucoup plus élevés que la moyenne européenne, et notamment parce que lorsqu'on fixe, puisqu'il faut quand même que nos compatriotes sachent que les régions signent avec la SNCF des conventions sur les conditions de transport de l'ensemble des trains régionaux. Sauf qu'à chaque fois, on a un vrai sujet, c'est qu'on ne sait jamais réellement et complètement comment sont fixés les tarifs. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que par rapport à l'Allemagne, qui a elle aussi une compagnie nationale, on a des tarifs du kilomètre ferroviaire entre 30 et 50% plus élevés.
Bon, c'est un autre sujet, bon, là, quand
non,
même, monsieur
si,
Morin.
Non, si, si, tout ça est confondu. Tout ça est toujours la même chose. C'est que, on n'arrive jamais à avoir la transparence sur les coûts quand on évoque la question de la SNCF.
Et donc les régions que vous représentez, là, sont le parent pauvre de ce conflit, finalement? C'est-à-dire que c'est vous qui allez assumer d'autres charges?
Bah, la question qui va se poser pour nous aussi, c'est comment, on rémunère la SNCF dans le cadre des conventions. Moi, j'ai pas l'intention de payer les jours de grève dans le cadre de la convention TER. En clair, la région Normandie doit, de mémoire, donner 130-140 millions d'euros à la SNCF pour couvrir ce service. J'ai pas l'intention de payer les jours où il y a pas eu de train. Ça, c'est clair.
Hervé Morin, de façon plus globale, deux questions. Est-ce que vous êtes favorable à la réforme de la SNCF, c'est-à-dire libéralisation et suppression pour les entrants, les nouveaux entrants, enfin, du statut, je vais y arriver. Et puis deuxième.
C'est samedi matin.
Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis on en parle depuis tellement longtemps. Bon. Ouais. Et puis les lignes régionales. Est-ce que vous dites vous que la réforme permet de les maintenir alors que notamment les syndicats craignent justement la fermeture des petites lignes. Déjà, la réforme au plan global et les lignes régionales.
La réforme au plan global, nous la voulions, nous la souhaitions, et donc nous souhaitons qu'elle soit mise en œuvre le plus rapidement possible.
Très bien.
Faut-il encore voir dans quelles conditions tout ça se met en œuvre ? Parce que si la concurrence amène à ce qu'il y ait les mêmes conditions d'exercice pour le privé que pour le public.
Là, vous parlez du sac, le sac à dos social que négocie le gouvernement. Ouais, enfin,
on en parle depuis tellement longtemps que je pense que tout le monde a à peu près tout ça en tête. Et donc, en clair, si on dit aux acteurs du privé, vous avez les mêmes conditions d'exercice le statut de la SNCF d'aujourd'hui, ça veut dire qu'en clair, on ne va pas avoir réellement de mise en concurrence. Il faut que, en clair, on puisse en effet assurer un certain nombre de garanties sociales pour les cheminots, c'est une évidence, mais en même temps, il faut qu'on arrive à mettre en œuvre une réforme où les conditions d'exercice sont à peu près comparables à celles qu'on peut avoir dans le privé, dans le reste du champ du transport.
Afin qu'il y ait notamment des baisses de tarifs, j'imagine, pour les usagers.
Comme je vous le disais tout à l'heure, on a un coût du kilomètre ferroviaire en France entre 30 et 50% supérieur. Il faut savoir qu'un billet de train, il est subventionné à 75% par les régions. Il n'y a pas une ligne qui est rentable. Pas une ligne, même celle où il y a beaucoup de passagers et beaucoup de trafic.
Donc vous vous demandez encore plus de concurrence.
Non, pas plus, on demande de la concurrence.
De la vraie concurrence.
De la concurrence pour qu'on soit en mesure de réduire les subventions d'équilibre, parce qu'on ne peut pas imaginer augmenter le prix des billets compte tenu du pouvoir d'achat de nos compatriotes. Et donc ça veut dire clairement qu'en réduisant les coûts, on est en capacité de dégager des marges de manœuvre pour investir. Et j'en arrive à votre deuxième question.
Les lignes régionales.
Les lignes régionales. Sur les lignes régionales, très clairement, on a besoin de voir clair avec l'État. Aujourd'hui, l'État ne... on a des discours formidables sur le sujet. On a un gouvernement qui nous dit le ferroviaire, l'entretien des voies, la modernisation des voies, tout ça, c'est majeur et essentiel. Vous savez où on en est dans l'exécution du contrat de plan qui fixe les investissements entre l'État et les régions? On est à mi-parcours, on est à 15% d'exécution. C'est-à-dire que l'État ne délègue pas les crédits pour pouvoir le faire.
Mais là, l'État s'est engagé à le faire dans le...
Oui, enfin, il s'engage comme il tient toujours parole. Oui, c'est ça. Et donc, en clair, ce que nous disons, un, que l'État déjà respecte ses engagements qui ont été signés lors des contrats de plan, et deuxièmement, il faut qu'il y ait une discussion ligne par ligne. On ne peut pas imaginer un seul instant.
Donc vous comprenez les craintes des syndicats qui disent qu'il n'y a pas de garantie de maintien des petites lignes une fois la réforme passée.
En même temps, il faut faire évoluer le système. On ne peut pas maintenir des lignes où il n'y a quasiment plus de trafic et où les coûts deviennent absolument gigantesques. Parfois, il faut avoir l'intelligence de considérer qu'il vaut mieux faire ça en bus qu'en train.
Je vous propose de rester sur ce en même temps, comme dirait l'autre, parce qu'on va rester sur le sujet de la SNCF dans France Info Politique. Restez avec nous, 8h40 d'abord, le tour de l'info avec Léo Chapuis.
En réponse aux militants d'extrême droite qui multiplient les actions contre les migrants dans les Alpes, une marche de l'hospitalité est organisée aujourd'hui. Rassemblement cet après-midi dans les rues de Gap à l'appel de plusieurs associations. Par ailleurs, on a appris hier soir que les militants d'extrême droite qui se félicitent d'avoir accompagné cette semaine des clandestins à la frontière ne seront pas poursuivis par la justice. Aucune plainte n'a été déposée, aucune infraction constatée. En ce pont du 1er mai, c'est donc une nouvelle séquence de grève à la SNCF, mais désormais les perturbations s'atténuent, le trafic s'améliore, la moitié des TGV sont en circulation ce samedi. Il y a de moins en moins de grévistes chez les cheminots, d'après la direction. Première sanction pour Pascal Machal, entraîneur d'athlétisme accusé d'agression sexuelle et suspendu par la Fédération française. Interdiction d'exercer pendant 6 mois. Pascal Machal fait appel de cette suspension, lui qui conteste les accusations. Et puis un mot de football pour vous dire que Saint-Étienne poursuit sa belle série. Victoire 1-0, c'était hier soir sur la pelouse de Montpellier. Les Verts sont désormais 5e du championnat et peuvent donc rêver plus que jamais d'une qualification en Ligue Europa.
8h30 politique sur France Info, toujours en compagnie de Gianni Calimi et notre invité Hervé Morin. Hervé Morin, restons un tout petit peu sur la SNCF, si vous le voulez bien. Je rebondis sur la question de Yannick sur est-ce que vous comprenez les syndicats. Est-ce que, à l'inverse, vous louez la fermeté du gouvernement depuis le début de cette crise? Et est-ce que vous faites confiance à Gérald Darmanin? Il l'a dit mercredi sur France Info que la reprise progressive de la fameuse dette de la SNCF se ferait sans impôts supplémentaires pour les Français.
Ça peut toujours se faire sans impôts supplémentaires. C'est, en clair, il suffit de gonfler le volume de la dette et de l'endettement du pays. Et puis ensuite, c'est, en clair, une opération qui est une opération financière. En clair, ça n'est rien d'autre. La question n'est pas là. La question, elle est de faire en sorte que la France soit en mesure d'avoir un réseau ferroviaire de qualité, avec un service de qualité, une ponctualité nettement améliorée, et donc de mettre le système en situation de répondre à une une évidence pour tous nos compatriotes, c'est que la SNCF d'il y a 30 ans n'est plus la SNCF d'aujourd'hui. La qualité du service s'est terriblement dégradée. Quand vous êtes en Normandie, vous n'avez jamais un train à l'heure. C'est ça la vérité.
Vous disiez la Normandie, vous avez des trains... le Moyen-Âge.
Oui, c'est le Moyen-Âge. Il faut quand même que nos compatriotes sachent... Mais c'est la situation. Ce sont des trains qui ne sont jamais composés comme il faut. On vous annonce 10 voitures, il y en a 7. Ce sont des voitures dans lesquelles il n'y a pas d'eau, où les toilettes sont fermées. C'est ça la prestation de la SNCF aujourd'hui sur un certain nombre de lignes. Et donc, ce que nous demandons à travers ça, c'est un réseau ferroviaire en capacité de répondre à ce qu'on peut attendre d'une compagnie publique en 2018.
Il y a beaucoup de réformes en cours en ce moment, on va en évoquer d'autres, si vous le permettez, avec Yannick Halimi.
Effectivement, alors une réforme sur laquelle compte beaucoup le gouvernement pour relancer l'emploi et sur laquelle les régions sont très investies, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est la réforme de l'apprentissage. Une réforme dont les objectifs sont assez clairs, hein. On veut simplifier le financement, augmenter l'efficacité du dispositif qui a fait ses preuves notamment dans d'autres pays comme l'Allemagne, mais apparemment on en sort progressivement les régions du processus. Vous êtes vent debout contre ce dispositif. Est-ce que, de façon très pédagogique, vous pouvez nous expliquer pourquoi? Faites un effort, monsieur Morin, s'il vous plaît.
Très bien, je vais devenir prof. En clair, pour que nos compatriotes comprennent, vos auditeurs comprennent. L'apprentissage était financé par les régions qui passaient des conventions avec chaque centre de formation sur des objectifs de qualité, sur les formations qui étaient ouvertes, etc. Ces conventions amenaient à ce qu'il y ait un financement public financé via la taxe d'apprentissage, une partie de la taxe d'apprentissage. Et donc, moi, président de région, dans les 71 centres de formation de Normandie, on décidait d'ouvrir tel type de formation avec tel objectif quantitatif, tel objectif qualitatif. Ça, dans une discussion avec chaque branche professionnelle. Par idéologie complète, influencée par le MEDEF et l'UMM, le gouvernement a décidé de mettre en place un système de libéralisation pure et simple de l'apprentissage, qui est tout de même du champ de l'éducation, qui est déjà d'ailleurs une première question. La libéralisation consiste en quoi? C'est-à-dire, on fixe un prix national. Je suis boulanger, je veux être boulanger, le prix de la formation est estimé à 5 000 euros. Et ensuite, en fonction du nombre d'élèves que j'ai dans ce centre de formation, j'en ai 10, 10 fois 5 000, ça me fait 50 000 euros de recettes, et voilà comment ça fonctionne. Et donc, on dit au gouvernement, tout ça est idiot. C'est de l'idéologie pure.
Mais alors concrètement, pourquoi? C'est quoi les conséquences de la réforme?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que vous aurez peu d'élèves dans un centre de formation, en zone rurale, dans les quartiers, vous aurez un système qui sera déséquilibré puisque le prix national sera fixé en fonction d'un contingent entre 12 et 15 élèves.
Donc ça ne va pas dans le sens
à chaque fois que vous aurez des formations avec peu d'élèves, ces formations fermeront et donc ce sera la réduction de toute une série d'offres de formation, notamment dans les territoires qui en ont le plus besoin. Parce que derrière ça, il y a la question de la mobilité. En clair, nos compatriotes sont peu mobiles, les jeunes qui vont en apprentissage le sont souvent d'ailleurs un peu moins. Et donc, si vous n'avez pas des offres de formation dans chaque territoire, vous affaiblissez l'offre et vous affaiblissez ensuite le champ de l'économie, puisque ces bassins d'emploi ont besoin de ces formations pour les entreprises qui s'y trouvent. Et donc, nous disons, ce sera un échec radical.
Près d'un an après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron et de cette nouvelle majorité et ce nouveau gouvernement, selon un sondage Odoxa d'Ansu Consulting pour France Info, près de 6 personnes interrogées sur 10 se disent mécontentes de l'action du gouvernement. Et il y en a un autre qui est mécontent, il l'a exprimé cette semaine à sa manière. Écoutez.
Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez?
Non, c'était pas vrai. Il est le président des très riches. Vous avez ma réponse? D'accord.
Voilà, François Hollande, dans Quotidien sur TMC, c'était mercredi. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase aux allures de boutade? Et expliquez-nous pourquoi vous avez dit il y a quelques jours que les réformes, que le gouvernement était mou du genou sur les réformes. Est-ce qu'on peut lier les deux d'ailleurs?
Peut-être pas, mais au moins je vais m'expliquer d'abord. Ce que je crois à travers un certain nombre de réformes, c'est qu'on est plus dans la communication et l'apparence de la réforme que dans le contenu de la réforme. On évoquait l'apprentissage à l'instant avec Madame Halimi. Le vrai sujet de l'apprentissage, c'est l'orientation et l'information des familles. C'est faire en sorte que nous ayons un système d'orientation où on ne dise pas aux jeunes, globalement, il n'y a que les formations générales qui conviennent. Sur ce sujet-là, Le Matignon avait indiqué en novembre, à une conférence de presse, que les régions auraient leur responsabilité de l'orientation et de l'information des familles et des jeunes.
Ce que vous dites, en gros, c'est qu'au
bout du compte,
c'est qu'il n'y a que de la com et pas de réforme.
Ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Prenons un second sujet, la formation professionnelle. On avait annoncé une grande réforme et un grand soir de la formation professionnelle, notamment des demandeurs d'emploi, avec une nouvelle gouvernance, un système extrêmement complexe. À un moment où nous, où les entreprises ont le plus grand mal pour trouver les qualifications et les compétences.
Muriel Pénicaud parle de Big Bang dans la réforme.
Mais,
d'ailleurs, le gouvernement a dû intervenir pour secouer les partenaires sociaux qui n'allaient pas assez loin.
Sauf que rien.
Pour vous, c'est pas encore assez loin.
Mais c'est pas que c'est pas assez loin, c'est que c'est certainement. Il n'y a rien de fait. La formation professionnelle, des demandeurs d'emploi, il faut qu'il y ait une gouvernance unique. Or, on est dans un système où il y a trois acteurs, donc un système compliqué, un système qui dysfonctionne.
C'est quand même plus simple qu'aujourd'hui.
Non, c'est
ce
pas plus simple.
Ce sera plus simple qu'aujourd'hui.
Non. Si on, non. Honnêtement, regardez le contenu de la réforme, ça n'est pas plus
simple. Le chômage, pareil, c'est...
Je termine. La réforme de l'assurance chômage. Tenez, troisième exemple intéressant. Réforme de l'assurance chômage. On a le système le plus généreux d'Europe. On constate aujourd'hui qu'un certain nombre de nos compatriotes profitent de l'opportunité de ce régime d'assurance chômage qui était probablement nécessaire en période de crise, mais qui aujourd'hui s'avère, grosso modo, crée des effets d'aubaine évidents. Moi, je le constate en tant que président de région. On crée des formations et des contrats de travail, des gens qui trouvent un boulot et qui, 4 mois plus tard, se retrouvent à Pôle emploi parce qu'ils ont intégré que Pôle emploi devenait une formidable agence d'intérim pour recharger des droits. Est-ce qu'on peut pas essayer de construire un système un peu plus solide? Je termine.
Attendez, mais
quatrième réforme, la réduction de la dépense publique. Vous l'avez vu où?
Mais pour résumer, attendez, le centre est un peu éclaté. Le centre est un peu éclaté aujourd'hui en France avec le MoDem qui est partenaire du gouvernement. Votre centre, à vous, il a l'air plutôt en opposition, si je comprends bien, ou en tout cas déçu, parce que la plupart des réformes sont pas suffisantes pour vous. C'est ce que vous dites.
Je dis qu'il y a bien souvent plus d'apparence de la réforme que du contenu. Et il y a donc le sujet totémique qui est la SNCF, qui est une... Voilà. Et donc, on considère qu'à partir de la SNCF, tout a été sur le même modèle.
En réalité, ça n'est pas vrai. Une dernière question sur ce registre politique. Quand vous dites ça, que vous demandez beaucoup plus de rigueur, finalement, d'aller plus loin dans les réformes, est-ce que c'est Hervé Morin qui parle ou est-ce que c'est le président des régions, de toutes les régions? Parce qu'on sait qu'il y a quand même... il y a beaucoup de régions qui sont tenues par des personnalités de gauche. Est-ce que, pareil, elles demandent plus de rigueur, plus de libéralisme dans la réforme de la SNCF?
20 secondes, vous avez 20 secondes.
Sur la SNCF, nous sommes tous d'accord. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Sur la réforme de la formation professionnelle, nous sommes tous déçus. On attendait autre chose. Une vraie politique de l'emploi conduite par les régions pour faire en sorte qu'on ait un système efficace avec une gouvernance unique. Ça n'est malheureusement pas le cas, contrairement à ce qu'avait dit Matignon à une époque. Souvent, on a renié la parole.
Donc gauche et droite, vous êtes sur le même registre.
Sur ces sujets-là, oui.
Allez, je suis certain que l'ancien ministre de la Défense que vous êtes a envie de parler de l'actualité à l'étranger. Également, c'est dans un instant, dans 8h30 politique. À 8h50, on refait un tour de l'info avec Léo Chapuis.
Le ras-le-bol des habitants de Bagnolet en banlieue parisienne. Des violences éclatent depuis 3 semaines dans des quartiers de la ville, des quartiers qui sont gangrénés par le trafic de drogue. 4 personnes ont été blessées par balles, plusieurs dizaines de voitures incendiées. Le maire socialiste de Bagnolet et le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, réclament en urgence des renforts de police. La grève à la SNCF, le trafic va donc être perturbé jusqu'à lundi matin. Trafic qui s'améliore néanmoins à mesure que la mobilisation des cheminots diminue. La direction de la SNCF annonce de nouvelles indemnisations, cette fois-ci pour les abonnés du TER. Ils seront remboursés à hauteur de 50%. Des risques de bouchons ce samedi sur les routes. C'est orange au niveau national. De nombreux départs évidemment pour profiter du pont du 1er mai. Et puis le mouvement de protestation continue dans la bande de Gaza. 4 Palestiniens ont encore été tués hier lors de manifestations pour le 5e vendredi d'affilée. Depuis le début de ce mouvement de protestation, 42 Palestiniens sont morts et plus de 5000 blessés.
France Info.
8h30 politique sur France Info avec Hervé Morin et avec Jeannick Halimi.
Oui, Hervé Morin, on va parler de la diplomatie et du dernier voyage d'Emmanuel Macron à Washington avec au menu et au centre du menu l'Iran. Que pensez-vous de ce voyage? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a été à la hauteur de son rang, de la France, de l'Europe face à Donald Trump?
Écoutez, puisqu'on évoquait tout à l'heure les sujets d'insatisfaction, il y en a un sur lequel je suis très clairement heureux de le constater à chaque fois que je rencontre des personnalités étrangères ou quand je vais à l'étranger, c'est que la France a retrouvé sa place dans le monde et qu'on le lui doit. Vous voyez comme quoi je suis capable de pouvoir aussi analyser les choses objectivement. La France a restauré son image à l'étranger et tant mieux.
Et sur le voyage ?
Sur le voyage. Sur la forme, honnêtement, j'ai un peu de doute de démontrer autant de connivence.
C'était too much sur la forme.
Ouais,
je
suis pas convaincu que ça nous serve vraiment de démontrer cette espèce d'amitié, d'accolade permanente, de tape.
Ouais, c'est un peu Donald Trump hein, qui poussait
Emmanuel Macron. Ouais, bah on n'est pas obligé d'y être aussi. Moi, j'ai constaté, j'ai rencontré dans ma vie de ministre de la Défense des hommes d'État qui n'étaient pas sur ce chemin, qui n'empêchaient pas d'avoir des relations cordiales. Quand on était avec Obama, on lui tapait pas sur l'épaule.
Sur le fond.
Juste une pause. On réécoute juste ce qu'a dit Emmanuel Macron sur l'Iran lors d'une conférence de presse.
Et après, on
aborde
l'Iran, c'est très important.
Voilà, on va l'écouter.
Vous considérez que le deal iranien qui a été négocié en 2015 avec l'Iran est un mauvais accord. On ne déchire pas un accord pour aller vers nulle part. On construit un nouvel accord qui est plus large et qui permet de prendre l'ensemble de nos préoccupations.
Donald Trump se donne jusqu'au 12 mai pour savoir s'il sort ou pas de cet accord sur le nucléaire iranien. Est-ce que ce serait gravissime d'en sortir ? Et est-ce qu'Emmanuel Macron s'aligne sur ces positions-là ? Vous avez
tout d'abord, cet accord, il a fait l'objet d'une résolution des Nations Unies. Ça veut dire qu'une nouvelle fois, les États-Unis considèrent que les résolutions des Nations Unies qui s'imposent à tous, on ne les respecte pas. Premier point. C'est quand même déjà une question, tant que telle. Deuxièmement, cet accord prévoit quoi, en clair ? Pour faire simple, prévoit des contrôles, prévoit la réduction du nombre de centrifugeuses et empêche l'Iran de pouvoir accéder rapidement à l'arme nucléaire avec des niveaux de concentration d'uranium suffisants. Bien, je résume pour faire court. C'est une étape. C'est une étape sur 10 ans.
Jusqu'en 2025.
Mais est-ce qu'il y avait la possibilité de conclure autre chose ? Non. Et donc la question que je pose, c'est, on déchire l'accord pour faire quoi ? D'une part, il y a la question du respect de la parole donnée. Les États-Unis ont engagé leur parole sur cette histoire. Et donc ça va être compliqué après de discuter avec les Coréens en considérant que la parole que vous avez donnée il y a 2 ans sur un sujet n'est pas forcément respectée. Et deuxièmement, pour faire quoi ? Pour engager une opération de coercition à l'égard de l'Iran ?
Non, on a donné quelques lignes. Hein. Prolonger la dénucléarisation, renforcer les contrôles.
Mais si l'Iran dit non,
l'aspect balistique et s'engager sur un règlement géostratégique.
On fait quoi si l'Iran dit non ?
En tout cas,
on fait quoi ? Oui. On considère qu'il n'y a plus d'inspection de l'AIEA ? On considère que, grosso modo, les Iraniens peuvent repartir sur les programmes de concentration de l'uranium ?
Donc Emmanuel Macron a eu tort d'essayer de
parler de cet accord plus global.
Déchirer l'accord ou dire cet accord-là n'est pas satisfaisant alors qu'il s'agissait du point de rencontre, en effet, dont on pouvait se dire qu'on aurait pu aller plus loin. Mais en clair, c'était un pas en avant, et ce pas en avant risque, si on le déchire, de nous amener à faire 3 pas en arrière, voire pire, de déstabiliser très profondément la région. Et derrière ça, il y a une autre question, une question plus profonde, qui est celle de la question de la prolifération nucléaire. Moi, je dis, sur le très long terme, le seul moyen d'éviter la prolifération nucléaire, c'est de faire en sorte qu'on aille vers l'abolition de l'arme nucléaire sur la planète. Parce qu'on voit bien que le traité de non-prolifération a été conclu entre des pays qui, à l'époque, dominaient le monde, et que ce système-là ne tient pas sur le long terme. Et que si on veut, un jour, éviter l'horreur et le cauchemar absolu, c'est-à-dire un conflit où on utilisera des armes nucléaires, il faut qu'un jour, États-Unis et Russie engage un processus qui amène le monde entier, vers l'abolition de l'arme nucléaire.
La Corée, est-ce que pensez-vous de la poignée de main ? Est-ce qu'on va justement vers une dénucléarisation de la Corée du Nord, ou est-ce que c'est un peu prématuré ?
Écoutez,
avez-vous envie d'être optimiste ?
Moi, je suis allé en Corée il y a quelques mois, donc je suis allé d'ailleurs sur la ligne de démarcation. Il faut bien avoir.
Vous êtes allé en Corée du Sud surtout ?
Oui, ça, bien sûr. Je suis pas allé en Corée du Nord.
Ça aurait pu,
oui. Je suis allé avec une dizaine de chefs d'entreprise normands pour favoriser le business des entreprises de Normandie. Bien. ce que je constate, c'est que il faut bien voir une chose, c'est que les Coréens, les Sud-Coréens, souhaitent très clairement qu'on puisse aller vers la fin de la guerre, puisqu'elle est encore existante en vérité. Il faut aussi que nos compatriotes intègrent l'idée que la ligne de démarcation, c'est pas une ligne dans laquelle on trempe tous les matins. Il y a des centaines de cars de touristes qui tous les jours viennent voir la ligne de démarcation, etc. Donc on est quand même dans un système relativement stabilisé. Ce qui est clair, c'est que pour les Nord-Coréens, la question qui va se poser immédiatement, c'est qu'est-ce que vous faites de votre arsenal nucléaire actuel ? Et là-dessus, on n'a absolument aucune réponse.
Et on verra bien ce que ça va donner, en tout cas, même si la formule est un peu toute faite. Merci en tout cas, Hervé Morin, d'être venu ce matin sur
Merci
France Info.
De m'avoir
Merci, Jeannick Halémy. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 8h30 Politique sur France Info.